Le grand déballage, l'interview de la semaine.
L'interview de la semaine pour parler de cette tribune, la tribune qui a secoué la sphère et puis notamment qui nous a tous secoués. Un nouveau texte de militaire accusant les principales autorités du pays, donc de... Alors certains disent de lâcheté, d'autres qui... Alors moi j'ai envie de voir, si vous voulez, l'angle plutôt sur, est-ce qu'on parle d'une manipulation, d'un, comment dirais-je, d'une instrumentalisation, ou tout simplement d'un malaise, ou tout simplement encore attirer l'attention, évidemment, pour dire quoi. On va en parler avec l'invité de la semaine, il s'agit du général, donc Emmanuel Richoufs. Bonjour mon général.
Bonjour. Vous avez un peu écorché mon nom, hein. C'est Emmanuel de Richouf. Hein.
Ah, j'ai oublié le 2, pardonnez-moi. Je vous prie de me pardonner.
Je vous en prie.
Alors, mon général, Emmanuel de Richouf, justement, vous êtes vous signataire de la tribune des militaires. Dites-moi juste, pour qu'on comprenne, parce que moi avec vous, d'abord je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, mon général. J'aimerais juste comprendre pourquoi cette tribune arrive maintenant.
Ah, là, vous me posez une question à 3 francs 6 sous, je n'en sais rien. J'ai signé, moi, la tribune, j'ai vu la tribune par hasard vers le, je sais plus quoi, le 15 avril, le 13 avril, peut-être le jour de mon anniversaire, tiens.
Oui.
Et j'ai dit, elle est pas mal parce que finalement, la première, hein, je parle des militaires à la retraite, et je trouvais qu'elle reflétait bien les sentiments que j'ai concernant mon pays depuis maintenant quelques années, avec ce que j'ai vu en banlieue depuis là tout ce temps-là, et je me suis dit je sens un petit peu effectivement ce feu qui couve, cette violence qui vient, le meurtre du professeur Paty l'an dernier, vous voyez, la commissaire de police, pas la commissaire de police, mais le fonctionnaire de police qui a été assassiné devant son commissariat. Et je me suis dit, effectivement, je suis tout à fait dans cette appréhension de mon pays. Et donc j'ai signé, tout simplement.
Général de Richouf, justement, vous avez signé, tout simplement, vous dites. Vous avez parlé de banlieue. Vous les connaissez, vous, les banlieues? Parce que vous avez été d'ailleurs même qualifié, ça a été votre surnom. On vous a surnommé le général des banlieues.
Ben oui, tout à fait. Figurez-vous qu'il n'y a pas plus de 3 minutes avant votre coup de téléphone, j'étais encore en lien avec des gens que je suis, que j'aide, que pour lesquels j'ai une grosse admiration pour ce qu'ils font. Parce que je pense que les banlieues, si vous voulez, je suis un petit peu surpris. Vous savez, je suis un peu surpris quand on par le vocable employé par les dirigeants. On parle de la France périphérique, on parle de la France des banlieues, on parle de la France des quartiers. Mais pour moi, c'est la France, tout ça. Il n'y a pas de France périphérique, France des quartiers. C'est la France. Et donc, quand je vois qu'il y a des milliers de jeunes qui demandent qu'à travailler, qu'à s'insérer, qu'à venir dans le giron de la France, de notre patrie, et qu'on ne fait pas grand-chose pour eux, eh bien, je me suis dit, il y a quelques années en arrière, il y a 15 ans, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce quelque chose, j'ai essayé de le faire au mieux, avec un certain nombre de collaborateurs, de gens qui se sont joints à moi tout naturellement, pour redonner espoir à des gens qui le méritent. Voilà.
Mais justement, général, parce que j'aimerais quand même qu'on comprenne, y compris nos auditeurs, vous dites la banlieue, vous la connaissez, vous avez lancé plusieurs opérations, notamment 105 permis pour 2005, ouais. Vous avez lancé aussi plein de choses, bref, je ne vais pas tous les citer. Donc les quartiers populaires, vous les connaissez. Pourquoi on parle de cette inquiétude? Pourquoi on dit qu'aujourd'hui, il y a deux sociétés? Il y a la société des quartiers populaires et la société, notre société française. Est-ce que c'est votre sentiment tout d'abord, mon général? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et est-ce que vous vous sentez inquiété?
Ah oui, je trouve qu'il y a deux, oui, effectivement, il y a deux sociétés. Il y a une société, j'allais dire, qui est à Paris intramuros et qui voit la vie en rose, j'allais dire. Et puis les autres qui voient la vie avec telle qu'elle est, hein, c'est-à-dire difficile. Et j'en reviens toujours au quartier que j'ai connu, que j'ai côtoyé, que je vois, dont j'écoute un peu les appels. Et là, je sens très bien que on les méprise, on leur donne pas grand chose. Voilà, c'est un peu la deuxième roue de la charrette. Donc, je crois qu'il là, il y a un effort à faire, et cet effort, j'ai essayé de le mener sans être entendu, bien malheureusement. Et je crois qu'il y a là, pour l'avenir immédiat, quelque chose de très fort à faire. Ce serait chaud, un engagement social majeur de l'État si on ne veut pas voir des quartiers faire sécession. Parce que, comme vous le savez, pour moi, la République est une et indivisible. Et à partir du moment où seulement un quartier ne serait plus, j'allais dire, dans la France d'aujourd'hui, eh bien, c'est la France qui souffre. Et donc, il faut faire quelque chose.
Vous êtes en quelque sorte, une alerte. Vous êtes un lanceur d'alerte, même, j'ai envie de dire. Mais ce lanceur d'alerte, si c'est oui, Auprès de qui, alors, mon général ?
Alors, le lanceur d'alerte, il est le lanceur d'alerte, si vous voulez. Moi, compte tenu de ma carrière, je pense que l'officier que je suis, ben, bien rempli son temps, avec 36 ans de vie militaire, 10 ans de vie en entreprise, 15 ans dans les banlieues, grosso modo. Et ben, ce lanceur d'alerte, il est à destination de la classe dirigeante, pour leur dire, attention, vous c'est bien beau d'avoir des élections, c'est bien beau de ne voir que vos élections, votre quant à soi. Et moi, je remarque simplement qu'il y a des Français qui souffrent, qui sont Français qui sont pas dans la, qui sont pas dans la mouvance, dans le move, comme on dit, et pour lesquels il faudrait peut-être faire quelque chose. Mais n'attendez pas trop, parce que de plus en plus, ben, les gens sont déconnectés, souffrent, deviennent violents parce qu'ils sont pas entendus. Et si nous ne faisons pas attention, eh bien, ce sera la France qui va décrocher et qui va se révolter.
Se révolter, justement, parlons-en, mon général. Dans le cas d'une interview que j'avais vue auprès, évidemment, d'un confrère, vous disiez la chose suivante. Évidemment, on parle de tir de Kalachnikov en toute impunité. Ouais. On dit aussi qu'il y a des violences contre les policiers. On fait référence aussi à l'assassinat de Samuel Paty. Bref, les tirs à la Kalachnikov dans les quartiers, justement, ça c'était référence à Montpellier ou à Nîmes, en toute impunité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de guérilla urbaine ? Est-ce que c'est ça qui inquiète ? Est-ce que c'est ça la question où on fait référence à cette fameuse guerre civile ?
Alors, la guérilla urbaine, pour moi, elle existe bel et bien. Hein. Je reviens toujours avec votre exemple, l'exemple que j'ai cité l'autre jour des Kalachnikov, du policier qui a été exécuté l'autre jour par arme de poing, des tirs directs, de cette femme qui a été brûlée vive l'autre jour de façon très violente. Vous voyez, je dis qu'il y a quand même une guérilla urbaine qui entretient un sentiment d'abord d'impunité vis-à-vis à l'égard grosso modo, une impunité à l'égard de ceux qui entretiennent l'insécurité, et puis d'un sentiment d'insécurité pour le public, pour les gens, les citoyens. Et je crois que c'est grave. Et comme le disait Michel Onfray l'autre jour, pour lui, la guerre civile a commencé, parce qu'à partir du moment où vous avez un Français qui tue un autre Français en face pour pas grand-chose, pour lui, c'était la guerre civile. Alors moi, j'irai pas jusqu'à employer ce terme pour l'instant, mais je dis simplement, si nous ne prenons pas garde, si nous prenons pas les mesures qu'il faut au moment voulu, c'est-à-dire rapidement, malheureusement, nous pourrions être amenés à entrer dans une logique de guerre civile.
Est-ce qu'on s'est loupé, justement ? Est-ce qu'il y a une politique de la ville qui a manqué quelque chose en direction des quartiers populaires ? Est-ce que le visage des quartiers populaires a changé, selon vous, mon général ?
Alors moi, je trouve, si vous voulez, que ça fait maintenant 10-15 ans, et je voulais monter, si vous voulez, après, là, l'an dernier, au mois d'août, j'ai relancé les ministères pour essayer de trouver une solution pour venir, pour aller retourner dans les quartiers, puisque je les avais quittés depuis un an, suite à l'affaire Paty, et je m'étais dit, il faut absolument qu'on puisse, si vous voulez, avoir un effet social majeur sur un certain nombre de quartiers pour montrer qu'il n'y avait pas que la répression policière. Il faut que la répression policière, c'est pas l'unique, ça ne marche pas.
Oui.
Il faut qu'il y ait un niveau social très important, vital, essentiel. Eh bien, finalement, je me suis heurté sur un édredon parce que, quand on dit le pays est en guerre, mais quand je dis on est en guerre, il faut véritablement prendre les mesures qui aillent. Or, quand vous voulez, la première des mesures à faire, c'est d'avoir un état-major, si vous voulez. Il faut, quand les ministères n'arrivent pas à concevoir un environnement social suffisant qui réponde à une menace, il faut changer, il faut avoir une organisation différente. Or, cette organisation, c'est toujours la même. Et donc, dans nos banlieues, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est qu'un saupoudrage. On va jouer au football, on fait un peu de vélo, on fait ceci, cela. Mais finalement, ce que demandent les gens, c'est de vivre, c'est de pouvoir travailler, c'est de pouvoir s'engager sur une filière qui ne soit pas une filière cul-de-sac. C'est-à-dire que quand vous n'avez rien, vous n'avez pas de bac, vous n'avez pas fait d'études, vous n'avez pas de... Il faut quelque chose. Et donc, il y a des filières, si vous voulez, cul-de-sac. Qu'est-ce qu'on fait entre 16 et 18 ans ? Alors, 16 ans, on me dit, mais 16 ans, ils peuvent aller... OSNU, Service National Universel, d'accord, mais c'est que 15 jours l'été, et puis après ils font quoi ? Ben après, vous avez 20 ans, mais nous on vous prend pas OSNU. Et vous voyez, il y a plein de quiproquos qui me font dire qu'on a effectivement raté quelque chose.
Général de Richouf, justement, je vous pose la question, est-ce que les quartiers populaires sont la France ?
Ah, pour moi, oui. Pour moi, si vous voulez, pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de France périphérique, c'est la France. La France, elle est une et indivisible, et qu'à partir du moment où vous commencez à stigmatiser, à dire par quartier populaire, les quartiers, les banlieues, vous stigmatisez. vous stigmatisez les gens, ou leur dites, bah, finalement, je suis moins que rien, puisque on me classe déjà. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Moi, pour moi, la France, elle est une, voilà. C'est comme ça.
Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes aujourd'hui apolitique, ou est-ce que, je vous pose clairement la question au général de Richoux, ouais, justement, comment vous voyez les prochaines élections présidentielles dans quelques mois? Est-ce que vous êtes préoccupé?
D'abord, je vous dirais que je ne les vois pas.
Oui.
Parce que compte tenu de ce qui se passe au quotidien, déjà on est au quotidien, si vous voulez, on peut pas dire de quoi sera fait demain, on n'en sait rien. Regardez la Covid, il y a un an, on savait pas qu'on allait être enfermé, cloisonné, bâillonné, interdit de sortir, voilà, pendant un an. Donc je ne me prononcerai pas sur les prochaines élections. Ce que je dis simplement, c'est que si on veut véritablement redonner confiance à nos concitoyens, si on veut véritablement tirer la France vers le haut, il va falloir qu'on ait une équipe, je dis bien une équipe de dirigeants qui ait le courage, la volonté de faire, hein, et de faire.
Vous pensez à qui, par exemple ?
De donner du sens à l'action. Qu'est-ce qu'on veut pour la France demain ? Voilà.
Qu'est-ce qu'on veut pour la France de demain ? Disons-le clairement, général de Richoux, justement, cette tribune de militaires, elle est quand même inédite. C'est une quasi-première quand même dans l'histoire.
Oui et non. C'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez eu des tribunes de militaires, sans le savoir, qui se sont prononcées discrètement au moment des élections, ou je sais plus quand, il y a une dizaine d'années.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il y avait des militaires qui écrivaient sous le coude, avec des noms d'emprunt,
oui,
pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour la défense. Donc nous, je crois que la tribune a eu le mérite. Je pense qu'elle a le mérite de mettre les gens devant leurs responsabilités. Voilà, je dois dire. Alors voilà, c'est tout. Alors après, chacun prend voix midi à sa porte et fait ses réflexions à bon escient, à mauvais escient. Mais je crois qu'on a eu le mérite, ça a eu le mérite de ben, vous voyez, hein, vous en parlez encore aujourd'hui, ça prouve que effectivement on a touché là où ça fait mal, quoi.
Le général, vous le connaissez, c'est votre collègue, Lecointre. Il demande,
oui,
lui, la
je connais pas très bien, hein. C'est un jeune, hein, pour moi, oui, bien sûr.
Il demande la démission, si vous voulez, des signataires. Vous lui répondez quoi?
Le général Lecointre, j'ai pas grand chose à répondre. Je dirais simplement, quand vous êtes sous l'uniforme, et je l'ai été pendant 36 ans de ma vie, quand j'ai voulu écrire, j'ai pris l'autorisation du ministre, parce qu'il faut demander l'autorisation au ministre pour écrire des livres, ou pour écrire, tout simplement. Je l'ai eu, j'ai eu les autorisations qui allaient bien, et malgré ça, on m'a sanctionné, voyez. Alors maintenant, on dit, donc les gens, on dit, il faut attendre que vous soyez à la retraite pour vous exprimer. Donc on s'exprime, on est sanctionné. Donc vous pensez bien que derrière, les jeunes militaires qui nous suivent, ils ont écrit sous pseudonyme, ils ont écrit sans donner leur identité, bien évidemment. Maintenant, on dit on les sanctionnait. Alors finalement, on marche sur la tête, c'est tout. Il faut savoir ce qu'on veut.
Qu'est-ce que vous dites à tous celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, partout en France? Vous leur dites quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour qu'on ait une France plus apaisée?
Déjà, je crois qu'avant de dire que le projet, vous voyez, qui donne envie. Moi, à mon âge, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce qu'on me promet rien. Moi, la France qu'on me promet demain, c'est d'augmenter mes impôts, c'est de diminuer ceci, c'est de payer le carburant moins cher, plus cher. Mais ça m'intéresse pas, ça. Oui. Moi, ce que je veux, c'est rêver. Ce que je veux, c'est qu'on me propose un projet formidable, que ça remue les foules, et qu'on se dise, on relève les manches, et puis on y va. Il faut vraiment quelque chose où la France veuille vivre, où les Français soient contents, où les Français se disent, bon, on va faire des efforts, mais on va y arriver. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Et pour l'instant, j'ai pas senti cette vague qui me submerge, hein, d'émotion, et dire, on y va, quoi. Voilà.
Si on réagit pas, enfin, nos gouvernants, ceux qui sont dans l'exécutif, au sein de, évidemment, les politiciens, s'ils ne réagissent pas, selon vous, tout peut déraper. On court à la catastrophe.
Je ne sais pas si tout peut déraper, tout va à la catastrophe, mais finalement, on se résigne. Alors, la France n'a jamais été un peuple de résignés. La France a été un peuple de conquérants, a été un peuple de... Je sais pas, on a été le phare du monde pendant des siècles. Et aujourd'hui, vous voyez, on est petit, on est angoissé, on est timide, on est craintif, on est là, quoi. On végète, mais vous pouvez vivre bien, vous pouvez vivre avec l'optimisme, vous pouvez vivre avec l'envie de remuer les montagnes, même en étant, j'allais dire, pauvre, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, franchement, il faut quelqu'un d'entraînant pour ça. Il faut pas des gens, des bureaucrates qui restent coincés dans leur bureau, quoi.
Général Emmanuel de Richeuf, justement, je vous remercie infiniment. Il y a Emmanuel, notre débatteur, tout à l'heure, qui voudrait vous saluer.
Il est avec nous.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel, tu vas bien?
Bien sûr, oui. Bon, écoutez, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que tu dis. Non, je voulais juste confirmer ce que Emmanuel de Richeuf a dit. C'est pas la première fois qu'il y a des tribunes de militaires. J'ai sous les yeux, d'ailleurs, je vous incite à les lire, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent. La revue Défense Nationale a listé toutes les tribunes de généraux, certains d'actives. Et on se rend compte que parfois ils sont plus impertinents que ceux qui étaient inscrits dans la tribune. Je prends par exemple le général Didier Castres, qui a eu des fonctions importantes puisqu'il a été chef de la planification, qui écrivait une tribune à la dénomination importante, la République une et indivisible. Bon, je reviendrai juste après la pub.
On en parle tout à l'heure.
Alors je reprendrai juste après.
Ah, parce que je dois lancer la pub. Allez, bon, général, je vous remercie, Emmanuel de Richeuf. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci Emmanuel. Merci à vous. À très bientôt. Merci.
Beurre FM, 17h-19h, le grand déballage avec Adil Farkan.